Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast de Périph autour du français. Je m'appelle Morgane et je suis enseignante indépendante de français comme langue étrangère. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle interview et j'ai le plaisir d'accueillir Hélène. Bonjour Hélène.
Bonjour Morgane.
Hélène, est-ce que tu es suisse ?
Alors non, je ne suis pas suisse, je suis française.
Et tu habites où ?
J'habite dans un petit village qui s'appelle La Neuveville et qui est à côté de Neuchâtel, dans le canton de Berne.
D'accord, donc c'est la Berne francophone.
C'est ça.
Mais tu es plus proche de Neuchâtel ou de Bienne ?
Je suis au milieu.
Au milieu ?
Oui.
Donc tu es au bord du lac ?
C'est ça.
Au bord du lac de Bienne.
Au bord du lac de Bienne, mais près de Neuchâtel.
Et depuis combien de temps tu habites en Suisse ?
J'habite en Suisse depuis 1 an et demi.
Et tu arrives de France ?
Non, avant la Suisse, j'étais en Nouvelle-Zélande.
Et qu'est-ce que tu faisais en Nouvelle-Zélande ?
Alors, en Nouvelle-Zélande, je travaillais dans une entreprise et j'étais responsable des ressources humaines.
Donc, tu travaillais en anglais.
C'est ça.
Ok. Et tu as des enfants ?
Oui, j'ai 3 enfants, 3 garçons. Ils ont 10 ans, 12 ans et 14 ans.
Et qu'est-ce que tu aimes ?
Alors, quand je ne travaille pas, j'aime passer du temps avec ma famille. Nous jouons beaucoup aux jeux de société, beaucoup de jeux de société et beaucoup de balades. On aime découvrir la Suisse.
Donc, vous faites des randonnées à la montagne ou des promenades à vélo ? Qu'est-ce que vous faites ?
Plutôt des randonnées à la montagne. On aime bien aussi aller au lac l'été. On aime bien se baigner.
Excellent, excellent. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ?
Alors, qu'est-ce que je n'aime pas ? Oh, je sais pas. Moi, j'aime faire beaucoup, beaucoup de choses. Je n'aime pas rester trop longtemps à la maison. J'ai besoin de sortir.
D'accord. Et donc prendre l'air, aller, même si les enfants ne sont pas à la maison, tu sors toute seule ?
Non, je ne sors pas toute seule, mais des fois je sors sans les enfants, parce que les enfants sont grands maintenant et des fois ils veulent rester à la maison. Avec mon mari, on va faire des balades tous les deux.
Ça c'est chouette alors.
Oui, c'est bien. En amoureux.
En amoureux. Et puis, quel est ton parcours professionnel alors ?
Alors moi, j'ai commencé à travailler en enseignant le français langue étrangère, comme toi.
Non, sérieux ?
Si. J'habitais en Écosse, à Édimbourg, à l'époque, et j'ai étudié le français langue étrangère à l'université, et je l'ai enseigné à l'Institut français d'Édimbourg.
D'accord, donc en fait, au départ, on a la même profession.
Complètement.
Donc tu as enseigné à quel niveau des élèves ?
J'ai enseigné jusqu'au niveau... Je faisais le DELF et le DALF, mais je faisais beaucoup de cours de conversation. J'avais des élèves débutants qui n'avaient jamais parlé français et des élèves presque bilingues qui voulaient juste pratiquer le français.
Et tu as enseigné combien d'années ?
J'ai enseigné le français langue étrangère 3 ou 4 ans. Ah d'accord. Oui, je faisais aussi des cours à l'université d'Édimbourg pour les étrangers.
D'accord. Et après, donc l'Écosse, mm-hmm. Tu es partie directement en Nouvelle-Zélande ?
Non, je suis rentrée en France. En fait, j'ai repris des études, j'ai fait un master en business management, donc en gestion d'entreprise. Et je suis rentrée en France où j'ai travaillé dans le monde du recrutement. Donc j'aidais les personnes à trouver du travail.
D'accord. Et après, comment t'es arrivée en Nouvelle-Zélande ? C'est ma question !
La question. En fait, mon grand garçon allait commencer l'école primaire et je ne voulais pas qu'il aille à l'école en France.
Non.
Non, je ne voulais pas. Parce qu'on trouvait que le système était trop strict pour nous. On voulait un système scolaire plus flexible. Et moi, je voulais repartir dans un pays anglophone. Ça me manquait de parler anglais tous les jours. Donc, on a décidé de partir en pays anglophone. On a regardé quel pays. Et c'est la Nouvelle-Zélande qui nous a plus plu par rapport au style de vie et aussi par rapport au système scolaire.
Mais c'était loin.
l'autre côté de la planète.
Et la famille a accepté, les parents, les grands-parents, on voit plus les petits-enfants.
Non, alors pour ma famille, ils n'avaient pas vraiment le choix parce que moi j'ai grandi en Afrique quand j'étais petite. Donc mes parents ont beaucoup voyagé quand ils avaient mon âge, quand ils avaient des enfants. Donc comme ma maman m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Nous, on l'a fait à ton âge, donc vous le faites aussi. Donc pour mes parents, ils étaient tristes, mais ils avaient encore beaucoup de petits-enfants parce que j'ai beaucoup de frères et sœurs, enfin beaucoup, on est quatre. Mais du côté de la famille de mon mari, c'était plus difficile. Ma belle-mère n'a que les trois enfants comme petits-enfants, donc on a pris tous les petits-enfants en Nouvelle-Zélande, mais ils nous ont donné beaucoup de soutien, ils ont compris. Ils étaient tristes, mais ils ont compris.
D'accord. Et puis après ce passage en Nouvelle-Zélande, vous êtes arrivée en Suisse.
Oui, on est resté 7 ans en Nouvelle-Zélande. C'était un peu long, surtout avec le Covid, le pays était fermé. Il n'y avait pas d'avion qui pouvait quitter la Nouvelle-Zélande ou venir en Nouvelle-Zélande. Donc on se disait, s'il y a un problème avec nos familles, on est vraiment trop loin. Mmh. Donc on a décidé de rentrer.
Quand vous êtes arrivée en Suisse, j'imagine que la grand-maman devait être contente de vous revoir en Europe.
Oui, ils habitent dans l'Est parisien, donc c'est à 5h30 de voiture d'ici. Donc on peut aller les voir même pour un long week-end et ils sont ravis, on a passé Noël avec eux cette année.
Ah, c'est chouette,
ouais.
C'est chouette. Et quand tu vivais donc en Nouvelle-Zélande, tu as arrêté le travail donc d'enseignante de français comme langue étrangère.
Oui.
Tu as travaillé, tu nous l'as dit, hein, dans les ressources humaines.
C'est ça.
Et le retour en Suisse, comment est-ce que, sur le plan professionnel, comment tu l'as organisé ?
Alors, sur le plan professionnel, c'était une décision pour moi de quitter le monde de l'entreprise. J'étais très, très heureuse dans mon travail en entreprise en Nouvelle-Zélande, mais c'était l'opportunité de faire autre chose. Les derniers mois en Nouvelle-Zélande, j'avais commencé une formation pour devenir home organizer. C'est mon métier maintenant. Donc, c'est un nom en anglais, mais ça veut dire professionnel du désencombrement. Donc, j'aide les gens à faire le tri chez eux. Donc, j'avais commencé cette formation, j'avais fait des stages, donc j'avais déjà quelques clients et j'ai décidé de lancer cette activité en arrivant en Suisse. Comme ça, je pouvais passer plus de temps aussi avec les enfants parce que c'était un très grand changement pour eux. Ils changeaient de langue, ils changeaient de culture, ils changeaient d'amis, ils changeaient de continent, d'hémisphère.
Et de température.
Et de température. Donc c'était bien que je sois à la maison les premiers temps. Donc j'ai pris le temps pour lancer mon activité de home organizer.
Mais l'école à la Neuville, les enfants, c'est en français ?
Oui, c'est en français. On a eu beaucoup de chance. Mes deux grands-enfants ont eu un prof de français langue étrangère qui venait les chercher pendant les cours d'anglais, parce que les cours d'anglais, ça ne leur sert à rien, et qui leur a donné des cours de français langue étrangère parce que mes enfants parlaient le français couramment, mais ils ne savaient pas le lire et ils ne savaient pas l'écrire.
Ça, c'est un petit peu le questionnement de beaucoup de familles francophones à l'expatriation. Où justement le français devient la langue seconde et quelquefois les enfants ont des problèmes pour écrire
Exactement.
Et lire le français qui, on le sait, sont vraiment, je dis moi toujours, trois langues différentes. Il y a le français formel quand on parle et quand on l'écrit en fait, quand on communique. Le français comme tout le monde le parle et puis là on peut avoir des différences entre la France, les régions de France, tous les pays francophones et puis en Suisse romande aussi.
Oui, même les régions. Oui.
Même les régions et puis même d'un canton à l'autre
oui,
pour la
c'est
Suisse.
Ça.
Et enfin je dis qu'il y a aussi le français écrit puisque malheureusement ce qu'on entend en français, on n'écrit pas la même chose. On a souvent plusieurs façons d'écrire un même son.
Alors ça rend surtout mon deuxième fils complètement fou quand il rentre de l'école des fois et qu'il doit faire des exercices de grammaire parce qu'on ne fait pas de grammaire en Nouvelle-Zélande. Donc ils ont dû apprendre ce que c'était qu'un verbe, un temps, un adverbe, un pronom. Ils ne connaissaient pas ces termes. Mais alors quand il voit des choses où tu dois dire par exemple « il avait » et il y a un « t » à la fin, ça le rend fou. Il fait « mais pourquoi on ne dit pas « il avait » ?» Il lisait le français avec un accent anglais parce qu'il prononçait toutes les lettres. Et pourquoi E-A-U, ça fait O ? Ça les rend fous. Donc, ils ont dû apprendre la phonologie et la prononciation de tous les sons. Que O et N, ça fait on. Ils ne savaient pas tout ça.
Mais ils lisaient quand même en français des
très,
livres.
Très peu. Ils lisaient des BD.
Oui.
On leur lisait, en fait, nous, des BD. Ils lisaient rarement tout seuls et je crois qu'ils regardaient beaucoup plus les images
voilà.
plutôt que lire
les bandes. Les bandes dessinées font vraiment partie de la culture francophone.
Oui, beaucoup.
C'est vraiment quelque chose qui est important. Et
vive Titeuf.
Vive Titeuf. Et qui est vraiment... La bande dessinée fait partie de la culture francophone, fait partie surtout de... même les adultes
oui.
lisent des bandes dessinées. Ce n'est pas quelque chose qui est péjoratif, qui est mal vu. C'est un livre, c'est accepté comme un livre.
Mon mari, à mon âge, donc 42 ans, il ne lit que des BD et des mangas. Il ne lit pas de livres.
Je ne vais pas dire l'âge du mien, mais...
Pareil.
Oui. Mais il a des bandes dessinées de,
oui.
de son enfance. Donc,
oui.
Il lit donc certaines pages, des fois, elles tombent.
Oui.
Mais il ne met pas de scotch parce que ça serait...
Ce serait gâché.
Ça serait gâché et après, il ne verrait plus.
Non, donc... puis en bande dessinée, il y a des choses très... Il y a beaucoup de bandes dessinées que mon mari peut lire et qu'on interdit aux enfants.
Oui, exactement. Mmh. Exactement. Et puis aujourd'hui, alors, donc, tu es home organizer.
C'est ça.
Comment ça se passe?
Alors, les gens m'appellent quand ils souffrent de leur encombrement. Donc ça, c'est le jargon technique.
C'est quoi, encombrement?
L'encombrement, c'est quand on a trop de choses dans sa maison. Donc, il y a trop d'objets.
Par exemple?
Par exemple, quelqu'un qui a des grosses collections ou quelqu'un qui n'a jamais rien jeté dans sa vie. C'est peut-être arrivé chez toi d'aller chez des amis et quand tu vas dans leur chambre, elles ont 50 paires de jeans, 30 pulls, 50 t-shirts. Donc ça, c'est des clients que j'ai qui ont du mal pour plein de raisons différentes. Jamais parce qu'ils ne sont feignants, je tiens à le dire. Pour plein de raisons différentes, ils ont beaucoup, beaucoup de choses chez eux et ils en souffrent. C'est-à-dire, ça devient un problème pour eux. Les
D'accord.
objets dans leur maison sont un problème.
Fainéant, c'est quoi?
Fainéant, ça veut dire tu sais faire, mais t'as pas envie.
D'accord, ok. Donc, c'est pas des personnes qui n'ont pas envie de
non.
ranger la maison.
Non, c'est des personnes qui ont envie de ranger leur maison, mais ils ne
savent
pas comment faire.
D'accord.
Parce qu'il y a trop de choses et ils savent pas par où commencer. Donc, moi, je les aide déjà à savoir par où commencer. Je les aide à comprendre pourquoi la maison... est encombré, pourquoi il y a trop de choses. Donc, on parle de la relation avec les objets. Et après, j'aide à trier. Donc, on prend les objets et on décide pour chaque objet, est-ce que je garde, est-ce que je donne, est-ce que je jette ou est-ce que je vends.
D'accord, mais il y a beaucoup d'émotions, j'imagine.
Énormément d'émotions, tout le monde pleure quand je viens.
Alors, je vais confirmer parce que j'ai fait appel à toi pour la partie administrative, pour les documents. Et ça a été un travail exceptionnel que j'ai fait avec toi.
Merci.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup pleuré pendant le moment où tu étais chez moi.
Les papiers, c'est ce qui fait le plus pleurer les gens. On se dit, c'est juste du papier. Quand je dis le papier, c'est les dessins des enfants, c'est les photos, c'est des carnets de voyage, c'est plein de choses sur lesquelles on écrit. Et
des
les gens sont attachés.
Des
factures. Il y a beaucoup de gens m'appellent après un deuil. Alors, un deuil, c'est quand il y a quelqu'un de ta famille, souvent, ou des amis qui sont morts. Après cela, souvent, tu hérites. Donc, si tes parents ne sont plus là, tu as tous leurs objets.
Mmh.
Et là, c'est difficile pour les gens de se séparer d'objets qu'ils ont hérités. Donc, moi, je suis là pour leur dire qu'ils ont le droit, que ce n'est pas... ils ne vont pas oublier leur maman ou leur papa parce qu'ils vont donner le pull ou...
les objets.
Ou les objets, ou un réveil, ou tout ça.
Mmh,
donc, je suis là pour donner l'autorisation.
En toute bienveillance.
En toute bienveillance.
Et en toute gentillesse.
Voilà.
Et jamais... moi, de ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié quand tu es venue à la maison, c'est qu'à aucun moment, il y avait le jugement.
Non.
Ça a toujours été avec le recul et puis des actes, des faits. Oui, non, mais ça n'a jamais été « tu dois faire ça
». Non.
« Pourquoi tu fais comme ça ?» Je n'ai jamais senti justement juger.
Ben, c'est gentil, ça
me
fait plaisir. Mais c'est le but, tout le monde a son histoire, tout le monde a son parcours. Et je dis toujours à mes clients, n'importe qui dans votre situation en serait au même point. Donc, moi inclus.
Et puis, donc, le désencombrement, tu nous en as parlé, mais
oui.
Quels sont les côtés, justement, positifs à désencombrer sa maison?
Alors là, je peux parler pendant des heures, mais il y a une limite à ton podcast.
Mais par contre, on peut retrouver ton podcast.
Oui, j'ai un podcast sur le minimalisme, où je parle du minimalisme en famille. Parce qu'on se dit, c'est simple d'être minimaliste quand on a 20 ans, 25 ans, qu'on est tout seul. Quand on a des enfants, c'est plus compliqué d'être minimaliste. Alors, peut-être un peu, mais pas tant que ça. Les bénéfices, ça va être déjà, tu te sens allégé dans ta tête. Quand tu dis au revoir à des souvenirs, même si c'est des bons souvenirs, tu as moins de choses dans ta tête. Et ça, ça fait du bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur la gestion de la maison, s'occuper de la maison. Si tu as moins de choses dans ta maison, ça va plus vite pour la nettoyer, pour faire le ménage, pour la ranger. Une autre chose, si tu as des enfants, quand ta maison est vide, alors pas complètement vide, mais quand il y a moins de choses, c'est plus facile pour les enfants aussi de faire le ménage, de ranger leur chambre. Donc en fait, tes enfants deviennent plus indépendants, plus autonomes. Ils peuvent faire les choses tout seuls et ils n'ont pas toujours besoin de toi. Un autre aspect, c'est que quand tu sais tout ce que tu as dans ta maison, tu ne vas pas racheter des choses. Ça, c'est quelque chose que je vois chez mes clients. Ils vont avoir un objet en double, en triple. Ça veut dire qu'ils vont avoir deux objets identiques ou trois objets identiques parce qu'en fait, ils avaient oublié qu'ils avaient cet objet parce qu'il y a trop de choses. Donc, ils rachètent. Donc, quand tu as moins de choses, tu rachètes moins.
Est-ce qu'il y a des côtés quand même négatifs à ce désencombrement?
Non. La seule chose, c'est que les gens regrettent de ne pas l'avoir fait avant. Vraiment. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? C'est pas vraiment un côté négatif, c'est que c'est difficile. Ça peut être difficile de faire du tri. Physiquement, déjà, tout le monde ne peut pas faire du tri. Il y a des gens qui ont des maladies chroniques, qui sont fatigués, qui ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc c'est fatigant, mais c'est surtout fatigant émotionnellement parce que un déménagement déjà c'est fatigant, donc un désencombrement c'est comme un déménagement, mais en plus on doit enlever des choses et il y a le côté émotionnel qui rentre en jeu. Mais des côtés négatifs, non, je n'en ai pas encore vu chez mes clients ou chez moi, et ça fait très longtemps maintenant qu'on est minimaliste.
D'accord. Quand vous êtes rentrée de Nouvelle-Zélande, comment ça s'est passé? Vous avez remporté les meubles, vous êtes repartie avec... Alors, vous n'aviez pas beaucoup de choses, si j'entends bien.
Alors non, on avait encore quand même pas mal de choses. On a été forcés de se débarrasser de beaucoup, beaucoup plus. En fait, quand on est venu en Nouvelle-Zélande, quand on a fait France-Nouvelle-Zélande, on a pris un conteneur avec nous. Donc 40 mètres cubes, c'est énorme. On n'était pas minimaliste à l'époque. Donc on avait emporté toute notre vie. Et pour le retour, c'était en 2021, pendant la crise Covid, et le prix du transport avait été multiplié par 5. Donc on ne pouvait pas financièrement prendre un conteneur de toute façon. Bon, il se trouve, on avait beaucoup moins de choses, mais quand même, on a décidé de ramener juste 2 mètres cubes plus 5 valises. Donc 2 mètres cubes, c'est vraiment pas grand-chose. Donc on a ramené presque rien. On a ramené 2 chaises et un meuble de famille. C'est les seuls meubles qu'on a ramenés. Et sinon, le 2 mètres cubes était plein des peluches des enfants et des Legos.
D'accord.
Ça m'a coûté beaucoup d'argent, ces peluches. Bref.
Bon, oui, on les voit là.
On en a beaucoup.
Je comprends.
Oui, oui. Et là, ouais. Tu vois que le tiers. On a 300 peluches à la maison. Donc oui, on est minimaliste, mais on a 300 peluches. je l'explique d'ailleurs dans un de mes épisodes de podcast. On peut être les deux. Mais donc, on a recommencé à zéro. On est arrivé sans rien du tout. Donc, on a dû tout acheter. Les cuillères, les assiettes, les couvertures, les matelas, les réveils. Les lits, les chaises, les tables, le
canapé,
linge de maison, le canapé,
la télé, les livres.
Tout ce qui va dans une maison, les rideaux, on a dû tout racheter. Oui. Et on a tout acheté d'occasion, de seconde main.
D'accord.
Donc on a pris plus de temps,
oui.
Mais on a beaucoup aimé ce processus parce qu'on a vraiment réfléchi à comment on voulait vivre. Donc on a laissé l'appartement vide très longtemps. trop longtemps pour mes enfants. On a gardé pendant 2 mois, on avait juste les matelas par terre, un canapé, une table et 5 chaises. Et c'est tout ce qu'on a eu pendant 2 mois. Mm-hmm. Pour vraiment réfléchir, qu'est-ce qu'on voulait mettre, qu'est-ce qu'on voulait acheter.
Alors cette situation, elle est aussi connue par un grand nombre de parents quand il y a un divorce, par exemple.
Oui.
Au moment où on s'est séparé avec le papa des enfants, bah, nous aussi, on est parti avec notre petite valise et puis on est parti avec pas beaucoup de choses. Et puis c'est même ça. Au début, c'est une copine qui m'avait prêté les lits pour les enfants.
Oui.
Et puis c'est petit à petit qu'on a pu aussi meubler la maison, mais... J'ai trouvé cette expérience très intéressante. On est resté sans canapé pendant 5 ans, nous. Hein.
Donc, non, ça, c'était pas possible.
Mais donc, on a vraiment appris aussi à vivre minimaliste dans cette situation forcée. Par contre, le jour où on a eu un grand appartement, on s'est fait plaisir et on est allé acheter des meubles.
Vraiment, qui ont fait plaisir, oui.
Qui ont fait plaisir. Oui. Et puis, je pense que là, Elisa se rappellera des 6 étages sans ascenseur pour les Billy que j'ai refusé catégoriquement de démonter.
Mais je crois que, je pense que dans ton podcast, il y a des gens qui écoutent et qui arrivent ou qui vont arriver en Suisse.
Oui.
Et moi, c'est le conseil que je donne, c'est de prendre le temps. Ça ne sert à rien d'arriver et le lundi et le mardi, tu vas à Ikea pour acheter tout ce qu'il faut pour ta maison. C'est plus pratique, c'est vrai. Tu vas à Ikea, tu ressors, tu as tous tes meubles, tu as tous tes accessoires. C'est hyper pratique. Mais de prendre le temps de réfléchir comment tu veux utiliser l'espace, quelles pièces tu vas utiliser, comment tu vas les utiliser et de quel instrument tu as besoin pour bien vivre ta vie. Ça vaut le coup. Donc oui, ça va plus vite d'aller chez Ikea, mais au final, tu vas acheter des choses dont tu n'aurais pas besoin.
Donc alors que on peut aussi chiner et puis
totalement.
Donc chiner, ça veut dire chercher dans les vide-greniers, dans les brocantes.
C'est ça. Alors il y a énormément de magasins de seconde main. Je sais qu'en Suisse alémanique, c'est les broquis. Donc moi, je suis devenue une spécialiste des broquis de Bienne, qui sont excellent. Selon si je veux des vêtements, parce que même nos vêtements sont de seconde main, mais si je veux des vêtements ou des meubles ou des chaussures ou des matériels de cuisine, c'est pas le même broquis où je vais. Je vais dans des broquis différents. Mais vraiment, on trouve de tout. Et puis sur Facebook Marketplace aussi. Donc une vente entre particuliers. Donc c'est quelqu'un qui ne veut plus de son canapé. Moi, je vais sur Facebook et je l'achète. Donc, on a fait beaucoup sur Marketplace aussi.
Alors, je vais faire une petite publicité supplémentaire puisque tu as cité 4 fois Ikea qui fête ses 50 ans Suisse cette année. 50 ans en Suisse pour Ikea, mais par contre, Atelier 24, www.atelier24.ch, c'est le site de référence pour les objets up-recyclés.
Eh bien, je ne savais pas. Mais... Et le minimalisme, en fait, sert à ça. Ça te fait penser à ta consommation. Au début, tu commences le minimalisme pour que ta vie soit plus simple, pour que la logistique de ta vie soit plus simple. Et en fait, tu finis par réfléchir à ton rapport aux objets et ton rapport à la consommation. Et les gens qui sont minimalistes, on a tout ça en commun. Le minimalisme va aller vers l'achat de seconde main, vers le zéro déchet. C'est des ponts qui se font, des connexions qui se font très bien entre tous ces mondes-là parce que tu te poses des questions que tu ne te posais pas avant. Nous, quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, la première chose qu'on a fait, alors il n'y a pas d'IKEA en Nouvelle-Zélande, d'ailleurs il y a des pétitions depuis 30 ans je crois pour qu'ils viennent, je crois qu'ils ne viendront jamais, le marché est beaucoup trop petit.
Mais il y a beaucoup d'expatriations, ils pourraient avoir un marché.
Oui, c'est trop loin, tu ne pourrais pas le faire, en fait tu aurais un magasin IKEA mais avec des prix chers, donc la qualité IKEA pour le double du prix, ce ne serait pas leur modèle économique.
Et puis les déménageurs ne feraient plus de commerce non plus.
Non, exactement. Donc, et du coup, mais notre premier conseil, c'était notre premier réflexe, c'est quoi le IKEA néo-zélandais ? Et on a cherché et on est allé tout de suite acheter tout ce qu'on doit mettre dans une maison sans réfléchir. Et on l'a regretté après.
Parce qu'il a fallu s'en débarrasser.
On aurait pu faire ça.
Et on imagine maintenant, donc là, vous vivez dans un très grand appartement, c'est magnifique. Mais imagine, tu as une grande maison un jour.
Ah mon Dieu,
pour moi, c'est l'horreur.
Parce que plus ta maison est grande, plus tu passes du temps à t'en occuper. Quand j'ai vu, on est dans un appartement qui est effectivement très grand. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses dans notre appartement, comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup de meubles. Donc, il est facile à s'entretenir. Mais si j'avais une maison de 200, 300 mètres carrés, rien que l'idée de laver par terre, ça, je me panique.
Ouais. Hélène, il y a des robots qui lavent maintenant.
C'est vrai. Puis, je crois que si j'ai une maison de 300 mètres carrés, je peux avoir une aide ménagère. Surtout. Mais bon, non, moi, je n'ai pas le rêve d'une grande maison. Avec mon mari, on a le rêve d'une petite maison quand les enfants ne seront plus là. Justement, on veut aller peut-être pas dans une tiny home quand même, parce que pour moi, l'intimité est importante et j'ai besoin d'avoir un espace à moi, mais d'avoir une maison beaucoup plus petite. Je pense pour mon mari et moi, 60 mètres carrés, ça suffit et c'est encore très grand. Après, on va accueillir les enfants, donc c'est peut-être pas possible, mais je rêve plus d'une petite maison que d'une grande maison.
Comme nous, en fait, le rêve, ce serait de vivre sur un bateau.
Exactement. Voilà. Si tu as une grande maison, c'est comme les objets. Dès que tu as quelque chose que tu possèdes, il faut t'en occuper. Si c'est une grande maison, tu t'en occupes plus qu'une petite maison.
Eh bien, écoute, je te remercie énormément, Hélène, de tout ce podcast. Et puis, est-ce que tu peux nous redonner, s'il te plaît, le nom de ton podcast, où on te trouve, compte Instagram, ton site internet?
Tout ça. Alors, le podcast s'appelle Faminimaliste, comme une famille minimaliste, Faminimaliste. Elle est sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Il suffit juste de taper Faminimaliste. J'ai aussi une page Instagram, ce qui est @Faminimaliste, au singulier, pas de S. Et pour mon travail, mon adresse professionnelle, c'est Famille O, c'est O comme organisé. Et le compte Instagram, c'est famille.o.suisse.
Excellent, merci beaucoup. Alors, comme tu maîtrises parfaitement l'anglais, est-ce que tu peux aider des familles en anglais?
Bien sûr, oui, avec plaisir.
Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous retrouverez toutes les coordonnées dans la description. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!
À bientôt!